Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Pour sa chronique de géographie, Jean-Robert Pitt, de l'Académie des sciences morales et politiques, a choisi de développer l'un des paragraphes de son « Histoire du paysage français », un livre paru chez Texto, la notion de patrimoine paysager. Bonjour Jean-Robert Pitt. Cette notion de patrimoine par rapport au paysage a-t-elle toujours existé ou est-elle récente ?
Elle a toujours existé, mais elle a pris une grande ampleur à partir de la Renaissance et encore plus à partir de la Révolution industrielle. D'abord, essayons de définir un peu ce qu'est le patrimoine. Le patrimoine, ça vient de pater, donc c'est l'héritage des pères, l'héritage des ancêtres, mais un héritage qui est assumé, qui est aimé, et qu'on a envie d'entretenir et de faire vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de figer complètement un héritage, il cesse rapidement d'être du patrimoine, il va mourir. Je m'occupe, comme vous le savez sans doute, beaucoup de patrimoine gastronomique. Il est évident qu'on ne pourrait pas manger comme on mangeait au Moyen-Âge, ou au XVIe ou au XVIIe siècle, mais que notre cuisine d'aujourd'hui, les grands plats de la cuisine contemporaine, sont héritiers de tous les apports des cuisines antérieures. Et c'est pareil dans le domaine du paysage, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage rural. Il y a des paysages que l'on considère aujourd'hui comme patrimoniaux, qui sont protégés par le ministère de la Culture, par l'UNESCO. Il y a même un patrimoine mondial naturel et culturel dans lequel il y a des paysages. Il y a un patrimoine, un ensemble de paysages viticoles qui sont au patrimoine mondial de l'humanité. Et ces paysages sont en fait des paysages qui parlent à l'imagination, qui parlent aux générations d'aujourd'hui et que nos contemporains, nous-mêmes, que les sociétés en général, ont envie de protéger, de conserver et veulent maintenir beau, ce qui ne veut pas dire qu'il les fige. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer, on doit même faire évoluer un paysage dont on hérite au gré des besoins de chacun, mais toujours en respectant son histoire, d'où il vient. Il faut qu'elle reste lisible dans ce paysage et en même temps que ce soit agréable à vivre. C'est pourquoi je suis toujours un peu réticent vis-à-vis de cette pratique de la protection paysagère venue de certains pays plutôt de tradition protestante. D'ailleurs, la notion de parc naturel créée par les Américains, puis après les Sud-Africains, puis après les Scandinaves, les Anglais, de parc national, c'est-à-dire d'espace dit naturel, en fait, ils ne le sont pas. Ils sont le résultat d'une très très longue histoire dans laquelle l'homme a joué son rôle et dans lesquels on interdit toute action humaine, sauf sur des petits sentiers, des petits lieux d'observation. Mais surtout, on ne marche pas n'importe où parce que ça risquerait de détruire telle espèce végétale, telle espèce animale, de toucher aux sources, aux pierres. Donc, moins l'homme...
On n'y vit pas, quoi. L'homme n'y est pas forcément bienvenu.
Ne doit pas y vivre. Oui. Et ça, c'est une conception qui est venue des pays d'Europe du Nord et du Nord de l'Amérique, qui est liée, je crois, à une vision, quand je dis que ça vient du protestantisme, c'est surtout dans cette idée qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc la seule image de Dieu que l'on puisse avoir, puisqu'on n'a pas, il n'y a pas de clergé, il y a beaucoup moins de cérémonies, il y a beaucoup moins de rituels dans les versions réformées du christianisme. Donc la nature, avec un grand N, des guillemets, moi je mets pour moi des guillemets, pas pour un amoureux de cette nature non humaine, la nature doit être protégée et admirée comme telle parce qu'elle est l'image de Dieu. Ce qui n'est pas du tout dans la tradition latine, romaine, méditerranéenne, disons, c'est-à-dire donc juive, grecque, romaine, chrétienne, musulmane, où la nature avec un grand N n'existe pas. Dans les conceptions méditerranéennes, qui sont assez dominantes à la surface de la Terre encore, mais avec une poussée très forte des conceptions venues du Nord vers le Sud, l'homme a sa place dans cet environnement et l'homme a le droit, non seulement le droit, mais le devoir de modeler cet environnement et de créer des paysages à son image, en fonction de ses goûts, de ses besoins, de ses capacités, etc., mais à son service. L'homme peut forger l'environnement et créer les paysages du moment qu'il s'y trouve bien et qu'il y vive bien. En fonction...
Lui et les autres.
Lui et les autres,
évidemment.
Bien sûr, pas tout seul. Non, quand je dis l'homme, c'est l'humanité.
Oui, bien sûr,
c'est l'homme
mais
et
bon,
même
parfois
la femme.
On oublierait un peu les autres.
Non, ce sont les sociétés humaines ont le droit et le devoir de modeler l'environnement et donc de créer des paysages dans lesquels elles se trouvent bien, dans lesquels elles sont satisfaites. Je ne dis pas que ce n'est pas beau du tout d'aller dans le parc de Yellowstone ou de Wyoming ou dans le parc des Écrins, qui est un des parcs naturels. Cela dit, c'est pas fait pour y vivre.
Dans votre livre, vous rappelez qu'il y a en France 7 parcs nationaux. et 38 parcs régionaux, oui. D'autres qui sont en projet. Que le premier parc national, c'est celui de la Vanoise, créé en 1963. Et puis qu'il y en a un aussi, le premier parc régional. Alors celui-là, j'ai été regarder sur la carte où c'était. C'est Cap et Marais d'Opale, donc dans le nord, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Voilà. Alors là, les parcs naturels régionaux sont des parcs dans lesquels on protège le paysage et l'environnement, mais aussi où on développe l'activité économique. Donc, on essaye de trouver un modus vivendi et un mariage harmonieux entre toutes les activités humaines, y compris industrielles, et la beauté des paysages.
Et en plus, il y a aussi des réserves naturelles. C'est une autre notion.
Oui, alors ça, c'est beaucoup plus petit et c'est à but essentiellement scientifique. Il y a même une réserve intégrale en France qui est dans la forêt de Fontainebleau et qui est un espace dans lequel, normalement, personne ne met le pied, sauf quelques scientifiques et encore avec beaucoup de précautions depuis le 19e siècle, mais qui est en fait ce qu'on appelait une série artistique au temps de Colbert. Et donc, depuis 4 siècles, cette partie de la forêt de Fontainebleau est très, très, très protégée. Mais c'est dans un but scientifique avant tout, hein, dans un but d'étude. Et là, ça me paraît tout à fait légitime.
Légitime, bien sûr.
Alors, peut-être qu'on pourrait, si vous me permettez... Là, on a parlé des paysages dits naturels qui ne le sont pas. Même le Wyoming et le Yellowstone ne sont pas naturels. On a d'ailleurs chassé les Indiens.
Oui,
on a chassé
de...
les Indiens pour préserver la nature non humaine, ce qui est quand même pas très, très sympathique. Il y a aussi des paysages patrimoniaux urbains, architecturaux et urbains. Et ça, c'est une conception qui se développe beaucoup à partir du XVIe siècle. Surtout, ça vient d'Italie, c'est la protection des ruines romaines. Donc, on remet en état, ou plutôt, on détruit des bâtiments du Moyen-Âge pour faire apparaître des monuments romains, débarrassés de leurs ajouts postérieurs. Et on a ça à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce tas de pierres très émouvant, parce qu'évidemment, c'est notre plus ancien monument parisien, mais ce tas de pierres très émouvant, mais qui est quand même pas beau à voir, qui s'appelle les Thermes de Cluny, et qui est une création, certes romaine, mais une création du 19e siècle.
Je vous trouve un peu dur,
Non, je vais me justifier.
C'est pas si mal.
Non. L'intérieur, la salle des thermes est très, très belle, mais vu de l'extérieur, c'est quand même un tas de cailloux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des maisons du Moyen-Âge tout autour. On en a gardé une seule, c'est l'hôtel de Cluny. Fort heureusement, on ne l'a pas détruit. On l'a un peu transformé, mais on ne l'a pas détruit. Mais tout le reste, toutes les maisons qui entouraient comme une gangue, justement, le mot gangue n'est pas très gentil, mais parce que ça a été considéré au temps d'Haussmann comme une vraie gangue. Donc, on a débarrassé tout pour ne faire apparaître que les pierres romaines. Donc, ça donne des chicots et c'est un tout petit peu dommage. C'est tellement émouvant quand on est dans un bâtiment comme Notre-Dame de Paris, par exemple, qui est porteur de 850 ans d'histoire avec des parties de toutes les époques. Notre-Dame de Paris, cathédrale du XIIIe siècle, mais avec un chœur qui a été aménagé par Louis XIV, qui est une splendeur absolue, avec des créations de Viollet-le-Duc qui non seulement ont sauvé la cathédrale de la destruction, mais qui en plus apportent une touche XIXe siècle, comme la flèche. Que serait Notre-Dame sans sa flèche, qui lui donne une grande élégance? Et la flèche, c'est Viollet-le-Duc. Il est même représenté en train de la regarder en bronze. Il est au pied de la flèche et il la regarde, ce qui n'est pas très, très, très modeste de sa part. Mais Notre-Dame de Paris est un bâtiment qui est porteur de toute son histoire jusqu'au XXIe siècle, puisque vous avez le nouvel hôtel qui est au cœur de la croisée des transepts, qui date du XXIe siècle. À Chartres, c'est aussi du patrimoine vivant. On a fait créer un tapis absolument prodigieux qu'on sort les jours de fête et qui couvre toute la croisée des transepts et qui est dans le bleu de Chartres, qui est une splendeur. Tout ça, c'est du patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on fait vivre, à partir du moment où on fige une ville et qu'on dit les volets doivent être de cette couleur-là, il faut que ce soit comme c'était au moment de la construction, ça devient mortel.
Alors, dans cette histoire du paysage français, vous rappelez aussi le rôle d'un certain nombre de grands personnages qui ont contribué à cette notion de patrimoine à préserver ou à protéger. D'abord, j'ai appris en vous lisant que le mot vandalisme, donc le contraire, avait été créé par l'abbé Grégoire, ce que je ne savais pas.
Qui a fait créer aussi le musée qui est juste à côté de l'Institut de France, qui est le musée de l'École des Beaux-Arts. C'est Le Noir qui l'a fait en sauvant des parties de monuments qui étaient détruits pendant la Révolution française et qui a dit on ne peut pas laisser perdre ça. Donc, il a fait une espèce d'accumulation de bouts de monuments c'est tout à fait étonnant.
Que l'on peut toujours voir. Un autre personnage clé, c'est Arcisse de Caumont.
Oui.
Un autre qui a beaucoup contribué à la diffusion des idées pour protéger le patrimoine, c'est Victor Hugo de l'Académie française.
Qui a écrit le premier roman dont le héros est un monument, c'est Notre-Dame de Paris.
Voilà. Ensuite, un autre académicien qui a joué aussi un grand rôle, bien sûr, c'est Prosper Mérimée. Et
oui, qui a sauvé la Madeleine, enfin qui a embauché Viollet-le-Duc.
Qui a embauché Viollet-le-Duc, qui a créé le service des monuments historiques, qui existe toujours, je suppose.
Oui, bien sûr. Son premier gros travail a été de sauver la Madeleine de Vézelay.
Voilà. Et puis donc, on pourrait parler peut-être aussi de Barrès ou de Giraudoux par justement leur écriture, non ?
Oui, bien sûr. Et puis Malraux quand même, qui a, tout en aimant l'architecture et l'art contemporain, a sauvé un certain nombre de monuments, a créé les secteurs sauvegardés sur un modèle qui est celui de la Charte de Venise, votée par un certain nombre de pays liés à l'UNESCO en 1964. Et il en a tiré une loi sur les secteurs sauvegardés. Les premiers quartiers qu'il a protégés, c'est donc le Marais à Paris, c'est Sarlat en Périgord, c'est le quartier Mazarin à Aix-en-Provence. Voilà, parmi les premiers quartiers qui étaient au bord de la ruine et qui ont été sauvés. Le Marais, en 1960, c'était pas très joli à voir.
Merci, Monsieur Malraux.
Oui, même si c'est évidemment, aujourd'hui, comme on a restauré tous ces bâtiments et qu'on les trouve beaux, ce n'était pas le cas avant, évidemment, c'est devenu très cher. C'est ça le problème des restaurations patrimoniales, c'est que tout quartier restauré patrimonialement devient extrêmement prisé. Regardez Venise, c'est le phénomène de Venise. Et Venise, patrimoine qui est en train de mourir parce que les habitants s'en vont.
Merci Jean-Robert Pitt. Je rappelle que votre ouvrage paru chez Texto s'intitule « Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours » et qu'il a reçu d'ailleurs le prix Broquette-Gonin Montyon de l'Académie française en 1984, juste après sa parution. À bientôt pour une autre chronique géographie sur Canal Académie.
Merci beaucoup.